Néré et Doris, aux beaux cheveux, cette fille du superbe fleuve Océan, engendrèrent dans la mer stérile les aimables nymphes Proto, Eucrate, Sao, Amphitrite, Eudore, Tétis, Galénée, Glauque, Simotoé, Speio, Toé, l'agréable Thalie, la gracieuse Mélite, Eulimène, Agavé, Parcité, Erato, Eunice au bras de rose, Dolo, Ploto, Péruse, Dynamène, Nésée, Actée, Protomédie, Doris, Panope, la belle Galatée, l'aimable Hippotoé, Hipponoé au bras de rose, Simodocée qui sur la sombre mer, avec Cymatolège et Amphitrite aux pieds charmants, calme sans effort la fureur des vagues et le souffle des vents impétueux, Simo, Éioné, Alimède à la belle couronne, Gloconome au doux sourire, Pontoporie, Liagore, Évagore, Laomédie, Polynome, Autonoé, Lysianas, Évarné doué d'un aimable caractère et d'une beauté accomplie, Psamathée au corps gracieux, la divine Ménipe, Néso, Eupompe, Thémisto, Pronoé et Nermétès en qui respire l'âme de son père immortel. Ainsi, l'irréprochable Néré eut 50 filles, savantes dans tous les travaux. Thomas épousa Électre, née du profond océan. Électre enfanta la rapide Iris, les harpies à la belle chevelure, Aélo et Ocypétès, qui, de leurs ailes légères, égalent la vitesse des vents et des oiseaux en volant sous la céleste voûte. Célo aux belles joues donna à Phorkys des filles blanches dès le berceau, et appelées les Grées par les dieux immortels et par les hommes qui marchent sur la terre. Péphrédo aux beaux voiles, Ennio aux voiles de pourpre, et les Gorgones qui habitent par-delà l'illustre océan, vers l'empire de la nuit, dans ces lointaines contrées où demeurent les Hespérides à la voix sonore, les Gorgones Sténo, Eurial et Méduse éprouvées par de cruelles souffrances. Méduse était mortelle, tandis que ses autres sœurs vivaient exemptes de vieillesse et de mort. Neptune, aux noirs cheveux, s'unit avec elle dans une molle prairie sur une couche de fleurs printanières. Lorsque Persée lui eut tranché la tête, on vit naître d'elle le grand Chrysaor et le cheval Pégase. Pégase mérita son nom parce qu'il était né près des sources de l'océan, Chrysaor parce qu'il tenait un glaive d'or dans ses mains. Persée, quittant une terre fertile en beaux fruits, s'envola vers le séjour des immortels, et il habite le palais de Jupiter, de ce dieu prudent dont il porte le tonnerre et la foudre. Chrysaor, uni à Caliroé, fille de l'illustre océan, engendra Gérion, aux trois têtes. Le puissant Hercule, désarmant Gérion, lui enleva ses bœufs aux pieds flexibles d'Enériti, entouré de flots. Le jour où il conduisit ses animaux au large front jusque dans la divine Tyrinthe, après avoir traversé la mer et immolé Orthos avec le pasteur Eurytion dans une étable obscure par-delà l'illustre océan. Caliroé, au fond d'une caverne, produisit un autre enfant monstrueux, invincible et nullement semblable aux hommes ou aux dieux, la divine Échidna au cœur intrépide, moitié nymphe aux yeux noirs et aux belles joues, moitié serpent, énorme et terrible, marqué de taches diverses et nourri de chair sanglante dans les entrailles de la terre sacrée. Ce monstre habite un antre profond dans le creux d'un rocher, loin des hommes et des immortels. C'est là que les dieux lui assignèrent une glorieuse demeure. Renfermée dans Harim, la fatale Échidna vivait sous la terre, toujours affranchie de la vieillesse et du trépas. Typhon, ce vent fougueux et redoutable, s'unit, dit-on, avec cette nymphe aux yeux noirs, qui, devenue enceinte, enfanta une race courageuse. D'abord Orthos, ce chien de Guérion. Ensuite l'indomptable Cerbère, qu'on ne nomme qu'avec effroi ce gardien de Pluton, ce dévorant Cerbère à la voix d'airain aux 50 têtes, ce monstre impudent et terrible. Enfin la fatale Hydre de Lerne, que nourrit Junon au bras d'Albâtre, pour assouvir son implacable haine contre Hercule. Mais ce fils de Jupiter, armé du glaive destructeur et secondé du vaillant Iolaos, immola cette hydre d'après les conseils de la belliqueuse Minerve. Échidna fit naître aussi la Chimère, qui, exhalant des feux inextinguibles, monstre terrible, énorme, rapide, infatigable, portait trois têtes, la première d'un lion farouche, la seconde d'une chèvre, la troisième d'un dragon vigoureux. Lion par le haut de son corps, dragon par derrière, chèvre par le milieu, elle vomissait avec un bruit affreux les tourbillons d'une dévorante flamme. La Chimère succomba sous Pégase et sous le brave Bellérophon. Echidna, s'accouplant avec Orthos, engendra la sphinx, si fatale aux enfants de Cadmus. Et le lion de Némée, que Junon, auguste épouse de Jupiter, nourrit et plaça sur les hauteurs de Némée pour la perte des humains. Ce lion qui régnait sur le Trétos, sur Némée et sur la Pessas, ravageait des tribus des hommes. Mais il périt, dompté par le puissant Hercule. Céto, uni d'amour avec Phorcys, eut pour dernier enfant un serpent terrible, qui, dans les flancs ténébreux de la terre, garde les pommes d'or aux extrémités du monde. Telle est la race de Céto et de Phorcys. Tétis donna à l'océan des fleuves aux cours sinueux le Nil, l'Alphée, l'Éridan au gouffre profond, le Strymon, le Méandre, l'Istère aux belles eaux, le Phase, le Rhésus, l'Achélous aux flots argentés, le Nessus, le Rhodius, l'Aliacmon, l'Heptapore, le Granic, les Épus, le divin Simoïs, le Péné, l'Hermus, le Caïque aux ondes gracieuses, le large Sangarius, le Ladon, le Parthénius, les Vénus, l'Ardesque et le divin Scamandre. Tétis enfanta aussi la troupe sacrée de ces nymphes qui, avec le roi Apollon et les fleuves, élèvent sur la terre l'enfance des héros. C'est Jupiter lui-même qui les chargea de cet emploi. Pytho, Admète, Lanté, Électre, Doris, Primno, Uranie semblable aux dieux, Hippo, Climène, Rhodier, Caliroé, Zeuxo, Clytie, Idié, Pasitoé, Plexor, Galaxor, l'aimable Dionée, Mélobosis, Toé, la belle Polydore, Cercéis au doux caractère, Pluto aux grands yeux, Perséis, Lanir, Acaste, Zanté, la gracieuse Pétréa, Ménesto, Europe, Métis, Eurynome, Télesto, voile de pourpre, Chrysia, Asia, l'agréable Calypso, Eudore, Tiché, Amphiro, Osiroé et Styx qui les surpassent toutes. Telles sont les filles les plus antiques de l'océan et de Tétis. Il en existe beaucoup d'autres encore, car 3000 océanides aux pieds charmants, dispersés de toutes parts, habitent la terre et la profondeur des lacs, race illustre et divine. Autant de fleuves, nés de l'océan et de la vénérable Tétis, roulent au loin leurs bruyantes ondes. Il serait difficile à un mortel de rappeler tous leurs noms. Les peuples qui habitent leurs rivages peuvent seuls les connaître. Tia, domptée par les caresses d'Hyperion, fit naître le grand soleil, la lune splendide et l'aurore qui brille pour tous les hommes et pour tous les dieux habitants du vaste ciel. Eurybie, déité puissante, unie avec Créus, mit au jour le grand Astrée, Pallas et Persès qui l'emporta sur tous les autres par son habileté. L'aurore, déesse fécondée par un dieu, conçut Astrée, les vents impétueux, l'agile Zéphyr, le rapide Borée et Notus. Après, cette divinité matinale enfanta Lucifer et les astres étincelants dont le ciel se couronne. Après, cette divinité matinale enfanta Lucifer et Styx, fille de l'océan, unie à Pallas. Fit naître dans ses palais l'émulation, la victoire aux pieds charmants, la force et la violence, ces glorieux enfants qui n'ont pas établi loin de Jupiter leur demeure et leur séjour, qui ne marchent pas dans une seule route où ce dieu ne les conduise et qui restent incessamment auprès du terrible maître du tonnerre. Telle est la faveur que leur obtint cette incorruptible fille de l'océan, le jour où Jupiter olympien, dieu de la foudre, appela tous les immortels dans le vaste Olympe. Il leur annonça que, reconnaissant envers tous ceux qui l'aideraient à combattre les titans, loin de les dépouiller de leurs privilèges, il leur laisserait le rang que jusqu'alors ils avaient gardé parmi les dieux. Et même, il ajouta que si l'un d'eux n'avait été ni honoré ni récompensé par Saturne, il obtiendrait les honneurs et les récompenses que son zèle lui méritait. L'irréprochable Styx, docile au conseil de son père, arriva la première, avec ses enfants. Jupiter l'honora et la combla de dons précieux. Il voulut qu'elle présidât au grand serment des dieux et que ses enfants vécussent toujours dans son palais. Quant aux promesses faites à toutes les autres divinités, il les remplit fidèlement, car il est tout-puissant et règne sur l'univers. Phébé monta sur la couche désirée de Zeus. déesse fécondée par les embrassements d'un dieu, elle enfanta la douce Latone aux voiles bleues. Latone qui, toujours agréable aux immortels et aux humains, apporta dès sa naissance l'allégresse dans l'Olympe. Elle engendra encore la célèbre Astérie, que Persès, autrefois, amena dans son vaste palais pour la nommer son épouse. Devenue enceinte, Astérie donna l'existence à Hécate, que Jupiter, fils de Saturne, honora entre toutes les déesses. Il lui accorda de glorieux privilèges et lui permit de commander sur la terre et sur la mer stérile. Déjà, sous Uranus couronné d'étoiles, elle avait obtenu cet emploi et jouissait des plus grands honneurs parmi les dieux immortels. Aujourd'hui, lorsqu'un des hommes, enfant de la terre, célèbre, selon l'usage, des sacrifices expiatoires, c'est Hécate qu'il invoque, et soudain la céleste faveur environne le suppliant, dont la bienveillante déesse accueille les prières. Elle lui prodigue la richesse, car elle en a le pouvoir. Tous les privilèges partagés entre les nombreux enfants de la terre et d'Uranus, elle seule les réunit. Le fils de Saturne ne lui a ni dérobé, ni arraché aucune des prérogatives qui lui échurent sous les titans, ses premiers dieux. Elle conserve tout entière la part d'autorité qu'elle obtint dans l'origine. Fille unique, elle n'est ni moins respectée, ni moins puissante sur la terre, dans le ciel et sur la mer. Son pouvoir est encore plus vaste parce que Jupiter l'honore. Quand elle veut favoriser un mortel, elle l'assiste avec empressement, et selon sa volonté, elle le fait briller dans l'assemblée des peuples lorsque les hommes s'arment pour le combat meurtrier. C'est elle qui, à son gré, se hâte de lui accorder la victoire et de prodiguer la gloire au vainqueur. Au jour où l'on rend la justice, elle s'assied auprès des rois vénérables. Si elle voit des rivaux lutter dans l'arène, toujours propice, elle vient les encourager et les secourir. L'athlète, vainqueur par sa force et par sa constance, mérite promptement un prix magnifique et, transporté d'allégresse, couvre de gloire sa famille. Quand elle le veut, elle protège les écuyers qui montent sur les chars. Également favorable aux navigateurs qui affrontent le trajet difficile de la mer azurée, elle exauce les vœux qu'ils adressent à Hécate et au bruyant Neptune. Cette illustre déesse leur procure aisément une abondante proie, ou ne la leur montre que pour les en dépouiller si tel est son désir. Occupée avec Mercure à multiplier dans les étables les bœufs, les agneaux, les nombreux essaims de chèvres et de brebis à la toison épaisse, elle peut, comme il lui plaît, accroître ou diminuer les troupeaux. Rejeton unique de sa mère, elle vit comblée d'honneur parmi tous les immortels. Le fils de Saturne la chargea encore d'élever et de nourrir les humains qui, après elle, devaient voir la lumière de l'aurore au loin étincelante. Ainsi, dès le principe, elle devint la nourrice des enfants. Tels sont ses nobles emplois. Rhéa, amoureusement domptée par Saturne, mit au jour d'illustres enfants. Vesta, Cérès, Junon au brodequin d'or, le redoutable Pluton qui habite sous la terre et porte un cœur inflexible, le bruyant Neptune et le prudent Jupiter, ce père des dieux et des hommes, dont le tonnerre ébranle la terre immense. Le grand Saturne dévorait ses enfants à mesure que des flancs sacrés de leur mère il tombait sur ses genoux. Il agissait ainsi dans la crainte qu'un autre des glorieux enfants du ciel ne possédât parmi les dieux l'autorité souveraine, car il avait appris de la terre et d'Uranus, couronnés d'étoiles, que, d'après l'ordre du destin, un jour, malgré sa force, il serait vaincu par son propre fils et détrôné par les conseils du grand Jupiter. Loin de surveiller vainement son épouse, toujours habile à la tromper, il dévorait sa propre race et réagémissait, accablé d'une douleur sans borne. Enfin, prête à enfanter Jupiter, ce père des dieux et des hommes, elle supplia les deux auteurs de ses jours, la Terre et Uranus couronnés d'étoiles, de lui suggérer le moyen de cacher la naissance de son nouveau fils et de venger la mort de tous ses enfants dévorés par l'astucieux Saturne. Prompt à exaucer les désirs de leur fille, ils lui apprirent le destin réservé au roi Saturne et à son fils magnanime. Ils l'envoyèrent à Lyctos, ville opulente de la Crète, au moment où elle allait mettre au jour le plus jeune de ses enfants, le grand Jupiter. C'est dans la vaste Crète que la terre immense le reçut et se chargea du soin de le nourrir et de l'élever. Marchant à travers les ombres de la nuit rapide, elle le porta d'abord à Lyctos, puis, le prenant dans ses mains, elle le cacha sous une haute caverne, dans les entrailles de la terre divine, sur le mont Égée, au fond d'une épaisse forêt. Après avoir enveloppé de l'ange une pierre énorme, Rhea la donna au fils d'Uranus, au puissant Saturne, ce premier roi des dieux. Saturne la saisit et l'engloutit dans ses flancs. L'insensé, il ne prévoyait pas qu'en dévorant cette pierre, il sauvait son invincible fils, qui, désormais à l'abri du péril, devait bientôt le dompter par la force de ses mains, le dépouiller de sa puissance et commander aux immortels. Cependant, la vigueur et les membres superbes du jeune roi croissaient avec promptitude. Les années étant révolues, trompé par les perfides conseils de la terre, l'astucieux Saturne rendit au jour toute sa race et succomba, vaincu par la force et par l'adresse de son fils. D'abord, il vomit la pierre qu'il avait dévorée la dernière et que Jupiter attacha dans la terre spacieuse sur la divine Pytho au milieu des gorges profondes du Parnasse afin qu'elle devînt, dans l'avenir, un monument et une merveille pour les hommes. Jupiter affranchit de leurs liens douloureux tous ses oncles, enfants d'Uranus que son père avait enchaînés dans la démence. Ces dieux, reconnaissant d'un pareil bienfait, lui remirent ce tonnerre, ces éclairs, cette brûlante foudre que la terre aux larges flancs avait jusqu'alors recelée. Fier de ses armes divines, Jupiter règne sur les hommes et sur les immortels.